Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Toute initiative tendant à créer des changements au sein des assemblées provinciales sont interdites dans les provinces où se sont déroulées en ce mois de mai les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. L'instruction est du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Et puis, lancement officiel ce samedi de la campagne de dépistage volontaire des hépatites dans les différentes zones de santé de Kinshasa. Une campagne de masse qui va aider le gouvernement à avoir des données fiables sur les hépatites. Enfin, notre invité dans ce journal, c'est Valemanga Wilma, expert en sécurité routière et transport multimodal. Face aux multiples embouteillages dans la ville de Kinshasa, il nous propose certaines pistes de solutions. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Toutes les initiatives tendant à créer des changements au sein des assemblées provinciales sont interdites dans les provinces où se sont déroulées en ce mois de mai les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a instruit les autorités provinciales concernées dans un message officiel datant du 14 mai courant. Cependant, cette mesure est mal accueillie à l'Assemblée provinciale du Bazouélé, où devrait être installé ce lundi le bureau d'âge dans la perspective de l'élection de nouveaux membres du bureau de l'organe délibérant de cette entité. Jacques Moukonkolé.
Après le retrait de la confiance aux membres du bureau le 12 mai dernier par 13 députés sur 18 que compte l'Assemblée provinciale, c'est ce lundi que l'installation du bureau d'âge devait avoir lieu. Cependant, le ministre de l'Intérieur s'y oppose, Madame Ruth Badouli, gouverneure de province par intérim.
Nous avions pris la décision aussi hors de la réunion de sécurité pour aller installer les plus gradés de la province à y installer le bureau d'âge le lundi à 10h. C'est la nuit que nous avions reçu le message officiel du VPM suspendant toutes les initiatives depuis les élections.
Les députés provinciaux du Bazouélé estiment que cette mesure du ministre de l'Intérieur vient cimenter les désordres dans leur assemblée. Antoine Gombo-Dupaye, leur rapporteur.
Les 13 députés qui ont déjà décidé à arrêter leur confiance aux 5 membres du bureau ne pourront jamais accepter un jour que la plénière soit convoquée par ce bureau qui est déjà déchu. Alors vous comprenez avec moi qu'il faut que le vice-ministre nous laisse la latitude de passer aux élections afin de choisir les nouveaux membres du bureau qui pourront nous accompagner afin aussi de matérialiser la vision du chef de l'État.
Le ministre de l'Intérieur justifie sa décision par la nécessité d'investir urgemment par ordonnance présidentielle les nouveaux gouverneurs élus. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
En Ituri, 4 morts et une vingtaine de personnes prises en otage. Tel est le bilan des atrocités des rebelles ADF en l'espace de 10 jours dans la chefferie de Baïma Boga au sud d'Irumu. Selon la société civile locale, la population est enclavée à cause de la présence de ces groupes armés à la périphérie de cette entité. Pour cette structure, l'impact de la force de mutualisation FRDC armée ougandaise n'est pas visible car les exactions de ces groupes armés se poursuivent. De son côté, l'armée soutient que la situation s'est nettement améliorée dans la zone et que les opérations sont en cours. Isaac Remoyopé.
La situation sécuritaire s'est détériorée depuis le début du mois de mai en cours dans la chefferie de Boga après plusieurs mois d'accalmie, rapporte la société civile locale. Le 5 mai dernier, plus de 15 personnes ont été kidnappées à Tondoli, un village proche, précise son président. Il ajoute que 9 parmi les otages ont réussi à s'échapper, d'autres sont encore entre les mains de leurs ravisseurs. 5 jours après, ils ont enlevé 7 autres habitants à Kapasa. Les corps des 4 otages ont été retrouvés mercredi et jeudi dernier. La population vit dans la peur et n'accède plus à ce champ, malgré la présence des FARDC et de l'armée ougandaise, indique Albert Basseke, président de la société civile.
Cette opération-là n'aide pas totalement la population. Donc, ici, on parvient à tirer la paisible population à quelques kilomètres là où il y a la base des Ougandais. Alors, on ne sait pas si réellement ils sont venus faire la sécurité ou pas. Mais la population continue toujours à souffrir.
Les porte-parole de l'armée exhortent la population à la vigilance car les opérations militaires contre ces groupes armés se poursuivent. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Nous rassurons encore une fois notre population que notre détermination fera à ce que nous puissions faire les armes complètement dans cette région et restaurer l'autorité de l'État.
Cette multiplication d'attaques des ADF a découragé de nombreux déplacés à regagner leurs milliers d'origines qui, selon eux, ne sont pas encore sécurisés. Bounia Isakremoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri où les jeunes de Mambasa reprochent à la MONUSCO de n'avoir pas aidé le gouvernement de la RDC à éradiquer les groupes armés depuis environ 2 décennies dans l'est du pays, notamment en Ituri. Ils accusent même le casque bleu de collaborer avec les groupes armés dans plusieurs localités à l'est du pays. Pour ces jeunes, il n'y a aucune raison d'espérer en la MONUSCO pour la protection de la population car ces interventions arrivent toujours après les tueries des civils. Ils demandent tout simplement le départ de la MONUSCO. Un leader de la jeunesse à Mambasa qui a requis l'anonymat exprime son ras-le-bol.
Nous ici à Mambasa, nous sommes fatigués, nous en tant que jeunes. Pourquoi nous sommes fatigués? Quand j'étais à commande, la MONUSCO était visible dans les drames de la population. Et ça, ce n'est pas encore caché. Même si on n'a pas les vidéos qu'on les avait capturées, mais il y a certains de nos acteurs qui avaient la MONUSCO près de transporter l'ennemi pour venir. Et la population, c'est combien des années aujourd'hui? C'est presque 8 ans. On a commencé à bien jusqu'à arriver, jusqu'aujourd'hui, ça arrive chez nous. En 8 ans, nous avions fait beaucoup de jours. Qu'est-ce que la MONUSCO a déjà fait? Nous venons de souffrir, ça fait longtemps. Vous savez, la MONUSCO arrive toujours en retard, sans rien faire. Quand on sait déjà actuellement, même les militants sur le lieu du drame, ils arrivent 2 jours après, soit 4 heures après. Alors, avec ces stratégies, nous, on a besoin que la MONUSCO quitte de base, c'est sans notre avis.
Le leadership de la MONUSCO s'est dit conscient de frustration de la jeunesse de Mambasa. Mais le chef de l'information publique de la MONUSCO en Ituri estime que les allégations de ces jeunes ne sont pas fondées. Ils n'ont pas de preuves de leur déclaration. Il ajoute que les casques bleus interviennent pour prévenir les attaques des groupes armés. C'est notamment les cas de la brigade d'intervention qui était en mission à Mambasa où ces jeunes ont manifesté. Le chef de l'information publique de la MONUSCO en Ituri, Jean-Toby Okala.
Nous comprenons les cris de ces jeunes face aux horreurs perpétrées par les groupes armés. Mais ils doivent aussi comprendre, je dirais, 3 choses. La première, c'est que la présence de la MONUSCO s'est réduite d'année en année ici en République démocratique du Congo. Cela voudrait dire que c'est la paix qui gagne du terrain. Ça veut dire qu'il y a des avancées significatives sur le terrain de la paix. La deuxième chose qu'ils devraient aussi comprendre, c'est qu'il n'a jamais été apporté la moindre preuve de cette collusion supposée entre la MONUSCO et quelques groupes armés que ce soit. Avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut faire dire aux images ce qu'elles ne sont pas. Donc il n'a jamais été apporté la moindre preuve. Et s'ils ont ces preuves, nous demandons qu'ils les partagent avec nous. La troisième et dernière chose, il n'est pas vrai de dire que la MONUSCO agit toujours en retard. Nous anticipons. Si nous sommes allés à Mambasa cette semaine, c'était justement à titre préventif. On n'a pas attendu que ces rebelles des ADF s'attaquent, n'est-ce pas, aux populations dans cette localité pour agir.
Des jeunes ont manifesté jeudi pour protester contre la présence des forces de la MONUSCO à Mambasa Centre et toutes les activités économiques ont été paralysées. Un dossier signé Isaac Raymond Yopi. Et puis au Nord Kivu, l'insécurité qui prévaut dans la chefferie de Bachou impacte négativement sur le développement de cette entité du territoire de Beni. Selon l'association des producteurs agricoles de Vuhimba, APAV, une organisation paysanne locale, cette situation est à la base de la rareté et par là de la hausse des prix de certaines denrées alimentaires, ce qui provoquerait certains cas de la malnutrition dans cette région. Gulen Kassassia pour les détails.
À ces jours, une grande partie de la chefferie de Bachou du territoire de Beni est touchée par l'activisme des groupes armés. Cette situation est souvent à la base des déplacements de plusieurs habitants vers des milieux jugés sécurisés. Conséquence, le prix de plusieurs denrées alimentaires a galopé et d'autres deviennent rares sur le marché. Une situation qui, selon le directeur de l'organisation paysanne Association de producteurs agricoles de Vuhimba APAV, freine le développement de la région. Kambale Kamabu, Deo Gracias.
Est-ce que la chefferie de Bachou, les gens ne travaillent plus? Par exemple, à ce qui nous concerne, à 2020, nous avions des champs au niveau du Graben, nous avions entreposé autour de 100 tonnes de riz padi. Mais alors, à 2021, nous avons entreposé 0 kg. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment la famine. Depuis 1993, nous avions éradiqué totalement le kwashiorkor. Mais aujourd'hui, nous risquons encore de retourner à la case de départ.
Il lance un appel au gouvernement pour les renforcements de forces de défense et de sécurité dans cette zone. D'après lui, cela permettra aux habitants d'avoir accès facile à leurs champs dans la chefferie de Bachou, considérée comme l'un des greniers de la ville de Butembo. Beni, Guren Kassassia, Radio Kapi.
Les inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire réclament du gouvernement central le paiement de leurs primes et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces requêtes ont été formulées lors d'une assemblée générale tenue ce samedi à Kinshasa. Ils ont donné jusqu'au 30 mai pour que ces litiges soient réglés, faute de quoi ils menacent d'aller en grève et boycotter les épreuves préliminaires de l'examen d'État. Des précisions avec Jean-Christel Ongenja, secrétaire général du syndicat des inspecteurs.
Ils sont dans le regret de constater que les documents importants que le ministre devrait signer par rapport à des primes des inspecteurs, par rapport à l'affectation d'un sous-gestionnaire de crédit propre à l'inspection, le ministre n'a pas signé ces documents importants. Donc, c'est une réponse négative du ministre par rapport à l'issue de ces négociations. Vu le silence du gouvernement quant à ces, les inspecteurs ont donné un ultimatum au gouvernement congolais avec un préavis qui court à partir de cette déclaration. Donc d'ici le 30, si le gouvernement ne résout pas les problèmes des inspecteurs, si le gouvernement ne paye pas des primes, si le gouvernement ne cherche pas à améliorer les conditions des inspecteurs, le 30 de ce mois, les inspecteurs iront en grève et cela sur toute l'étendue du territoire national.
Nous l'avons dit au sommaire, le ministère de la Santé publique a lancé officiellement une campagne dépistage volontaire des hépatites dans les différentes zones de santé de Kinshasa ce week-end à partir de la clinique Reine Astrid. D'après Dr Tiamala Pascal, coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite, cette campagne de dépistage de masse va aider le gouvernement à avoir des données fiables sur les hépatites qui constituent un véritable problème de santé publique en RDC. Il est dit au micro de Tati Mapoku.
En fait, les activités que nous allons mener au cours de la période du 13 mai à la période du 28 juillet 2022, c'est de préparer la journée mondiale. À l'occasion de cette journée mondiale, nous allons pouvoir manipuler des données qui viendraient de ce que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire le dépistage dans les zones de santé. Et donc, nous allons commencer par la phase de 3 zones de santé et la deuxième phase, c'est les 35 zones de santé de la ville-province de Kinshasa. Et le programme sera intitulé « Kinshasa ne peut plus attendre ». Kinshasa veut tout de suite aller à la prise en charge. C'est pour cela que nous allons étendre ces enquêtes à toutes les zones de santé, les 35 zones de santé de la ville-province de Kinshasa.
Et puis, la tenue de la table ronde de Lubumbashi portant sur la cohabitation pacifique entre les provinces du Grand Katanga et celle du Grand Kasaï était justifiée par la montée de ce que plusieurs personnes ont qualifié de discours de haine véhiculés par les individus se réclamant de ces deux communautés. Ces discours ont mis à mal le vouloir vivre ensemble et partant la cohabitation pacifique entre certains ressortissants de ces deux espaces. Radio Okapi vous propose une série de reportages sur cette question. Pour commencer, Jean Gandou, qu'est-ce qu'un discours de haine et quels sont les facteurs qui conduisent à ce genre de discours?
Dans son discours de clôture de la conférence interprovinciale, le président de la République a appelé toutes les communautés à cultiver le vouloir vivre ensemble et à bannir le discours de haine. Discours de haine que le professeur Nopes Kibiswa, docteur en analyse et résolution des conflits, définit comme des gestes, des actions, des propos, des écrits conduisant à dégrader, dénigrer une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, leur appartenance ethnique, leur religion, leur nationalité, leur handicap ou tout élément relatif à leur identité. Toutefois, il précise que tout dépend de chaque pays et de chaque contexte. Plusieurs personnes, sans justifier ce genre de discours, indiquent cependant qu'ils peuvent être le fruit des incompréhensions, des frustrations et des sentiments d'abandon de la part de ceux qui y recourent. Et de nos jours, les auteurs de ces discours s'appuient sur l'Internet, notamment les réseaux sociaux, pour véhiculer leurs messages. Ce qui fait qu'en un clin d'œil, ce message atteigne un grand nombre de personnes, mettant ainsi en péril le vouloir vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Pour le professeur Nopes Kibiswa, il faut implanter le mécanisme et les structures de prévention des discours de haine au lieu d'attendre qu'il y ait des violences ou des bagarres pour agir. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Somalie, Hassan Cheikh Mohamud a été élu dimanche 15 mai président de la Somalie à l'issue d'un vote marathon au troisième tour du scrutin. Il avait déjà dirigé le pays de 2012 à 2017. Il affrontait le président sortant Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo. Des fonctionnaires du Parlement ont dénombré plus de 165 votes sur 329 en faveur de l'ex-président Mahamoud. 5 ans après son départ, il retourne à la tête de l'État après cette victoire face au président sortant. C'est une revanche pour Hassan Cheikh Mahamoud et une première dans l'histoire politique somalienne.
L'invité.
Face aux multiples embouteillages enregistrés dans la ville de Kinshasa actuellement, Valemanga Wilma, expert en sécurité routière et transport multimodal, propose un certain nombre de mesures urgentes et à long terme à mettre en place pour réduire ces embouteillages tout en se focalisant sur les causes directes et indirectes qui sont à la base de cette congestion de la circulation routière dans la capitale. L'expert Valemanga est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Pierrot et Lamégé. Suivez.
Monsieur Valemanga Wilma, bonjour.
Bonjour Radio Capi.
Quelles sont les causes de ces embouteillages monstres et récurrents qu'on observe actuellement dans la ville de Kinshasa?
Les causes des embouteillages ou encore la congestion au niveau de la ville de Kinshasa et dans les 25 autres villes de notre pays sont très bien connues. D'abord, la mauvaise conduite. Nos conducteurs ne sont pas formés dans les auto-écoles, c'est dans le tas. Ça, c'est l'une des causes majeures. Deuxième cause, le code de la route n'est pas respecté. Troisième cause, c'est ce que nous appelons, nous, le manque de recyclage de ces conducteurs. Normalement, la loi dit que 5 ans après, il faut absolument recycler les conducteurs. Mais le ministère de Transport, à travers la Commission nationale des préventions routières, en tout cas, n'arrive pas à pouvoir recycler tous les conducteurs de notre pays. Quatrième cause, c'est pratiquement dans la trilogie donc de la sécurité routière, l'homme, l'engin et l'infrastructure. Bien sûr, nos routes ne répondent plus à mieux faire circuler, c'est-à-dire le charroi automobile. Cinquième cause, c'est le manque d'équipement en ce qui concerne la gestion du trafic. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'automatique trafic contrôle. Nous n'avons même pas de caméra de surveillance. Nous n'avons pas de radar. Donc tout ça, ça fait que nous puissions avoir le manque de fluidité, ce qui entraîne donc ce que nous déplorons aujourd'hui.
Quels sont les préalables qu'il faudra prendre en compte aujourd'hui si on veut prendre des mesures pour gérer la circulation routière à Kinshasa?
Vous savez que nous sommes l'unique pays au monde, au moment où nous vous parlons, qui n'avons pas un permis de conduire valide. Donc, il faut absolument que nous puissions avoir un permis de conduire biométrique, un permis de conduire sécurisé. Mais on n'en a pas. Et nous ne connaissons même pas les statistiques de ceux qui nous conduisent dans le transport de marchandises comme dans le transport de personnes. Donc ça, c'est un problème. Autre préalable, il faut que le gouvernement, avec tout ce que nous avons comme programme, zéro trou et ainsi de suite, puisse arriver à rétablir la situation en ce qui concerne les infrastructures routières. Et aussi, autre préalable, il faut absolument que nous puissions aller dans le sens de transport des masses, c'est-à-dire avoir le transport par chemin de fer urbain. Il faut vraiment réhabiliter avec la STP et avec la SNCC pour la ville de Lubumbashi et les villes de Kindu, ainsi de suite.
Quelles devraient être des mesures urgentes que le gouvernement devra prendre aujourd'hui pour gérer cette question des circulations routières?
La première des choses, il faut absolument que la régulation du trafic soit au beau fixe, c'est-à-dire la police des circulations routières ainsi que l'installation de feux de signalisation lumineuse puissent fonctionner avec le robot. Et il faut un renforcement au niveau de la régulation du trafic par le feu de signalisation lumineuse et implémenter dans tous les carrefours la présence du robot roulage intelligent, et ça peut donc réduire tant soit peu le dysfonctionnement dans la circulation routière à travers la ville de Kinshasa. Vous savez que le code de la route jusqu'au jour d'aujourd'hui est désuet. Notre code de la route doit être révisé parce que la donne transport à deux roues n'existe pas dans cette loi-là.
Beaucoup d'observateurs estiment qu'il faudra aujourd'hui avoir des voies secondaires qui relient les artères principales. Ce sont les voies qui peuvent être des débouchés. Est-ce que c'est possible d'y arriver aujourd'hui?
C'est possible. Notre pays est doté de PDTK, c'est-à-dire le plan directeur de transport dans la ville de Kinshasa. Nous devons donc, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec le ministère des infrastructures et travaux publics, nous devons tout faire pour que la ville de Kinshasa soit pratiquement secondée par les routes secondaires. Donc nous ne devons pas toujours avoir les routes d'antan, mais il faut construire les voies secondaires pour pouvoir désengorger donc la ville de Kinshasa. Mais aussi, nous devons avoir la boucle de Kinshasa, cette boucle qui partirait donc de l'aéroport de Ndjili pour sortir vers Kasangulu et retrouver donc la route de Matadi, pourquoi pas le 30 juin, et la route poids lourd, afin que nous puissions avoir une boucle. Mais aussi, il faut que l'État puisse penser aux autoroutes, c'est-à-dire pour avoir des routes express également, afin que cette congestion soit transformée en une ville fluide.
Monsieur Valemanga Wilma, je vous dis merci.
Merci Radio Okapi.
Fin de cette édition du journal. Merci pour votre particulière attention.